Salut à tous, bienvenue sur Radio Box, c'est Emma
et Célia. Aujourd'hui, les élèves de 7-8H de Forvani ont décidé de vous parler de notre super commune,
le Giblou. Pour commencer, nous allons nous envoler chez nos amis les insectes.
À vous de deviner.
Radio Box, la radio qui fait
Bienvenue sur Radio Giblou. Vous avez peut-être connu ce bruit ? Eh oui, aujourd'hui nous allons vous parler des abeilles, ces petits insectes qui nous font peur. Pour ça, nous sommes en compagnie de Monsieur Eigenmann qui possède des ruches. Mais d'abord un petit peu de musique avec l'artiste Ciao Amigo.
Envoie la prod, que je m'éclate avec tous mes potes, ceux qui traînent mes patins. On est comme Paris, un 15 la cote, ne nous compare pas à toutes ces catins. Purple Money, tu nous connais, je suis venu dans ce biz, auto-tuné. Le but c'est de finir fortuné. J'étais déjà mort quand toi t'es né. On est en train de vieillir, on grandit plus. Y'a des sous à faire, faut que tu m'en dises plus. Tous les jours on joue à la roulette russe, tous les soirs on se tue à la buvette russe. Wesh la famille, c'est comme moi, moi je fais les sons, toi tu comme moi.
Et maintenant, l'interview d'Hervé Eigenmann. Donc, vous avez des ruches, Hervé ?
Oui.
Mais vous avez une autre passion que les ruches.
Ah oui, plein de passions, enfin plein de, d'autres choses. Je suis retraité maintenant, donc j'ai plus de temps pour mes ruches, mais j'étais enseignant avant. J'adore les langues, donc je suis à la retraite, je perfectionne mon italien, mon espagnol, j'écris des livres, enfin j'ai plein d'autres choses. Il n'y a pas que les abeilles.
Qu'en pense votre famille de ce travail d'apiculteur, enfin de cette passion ?
Alors, la famille, en fait, on s'en occupe les deux avec mon épouse. Donc, on en pense que du bien, en tout cas les deux. Mes filles n'aiment pas du tout, elles n'aiment pas tellement les abeilles. Donc, c'est vraiment le domaine des parents, ça.
Des ruches, depuis combien de temps en avez-vous ?
Alors, ça va faire une douzaine d'années. On a hérité en fait de deux ruches en Valais qui appartenaient à un oncle de mon épouse. Et j'y connaissais rien. Et puis on a dit oui. Et puis j'avais un collègue qui est passionné par les ruches, qui doit avoir une soixantaine de colonies, qui s'appelle Gérard Huldry, qui était d'ailleurs aussi un enseignant. Et puis qui nous a coaché au début pour tous les traitements, pour savoir comment faire et tout ça. Et puis on s'est lancé. Et puis maintenant on a trois ruches.
Saviez-vous combien d'abeilles il y a dans une ruche ?
Des milliers, des centaines de milliers, oui.
Merci beaucoup, nous faisons une petite pause musicale avec Lil Pump.
Yeah. Oh. Brr. Brr. Gucci Gang. Oh.
That's it right now, Tina.
Low Pump. Yeah. Gucci Gang. Oh. Oh.
Yeah. Big head on the beat.
Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wet rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bitch no wet rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy.
Les abeilles, nous les voyons souvent dehors, mais qu'est-ce qu'elles font ?
Dans la ruche ? Eh bien, dans la ruche, elles font un tas de choses. Les abeilles, c'est des colonies très organisées, c'est des sociétés très organisées, avec des travailleurs, des soldats, des chefs et tout ça. Et en fait, elles s'occupent surtout des larves, donc, qui donneront les futures abeilles. Elles amènent le miel aussi, elles font la gelée royale pour nourrir la reine. Elles surveillent les alentours aussi pour pas qu'il y ait des prédateurs qui entrent dans la ruche. Elles font en fait un tas de métiers, un peu les mêmes qu'on pourrait comparer un peu à notre société, à nous. Elles sont très organisées.
Avez-vous peur des piqûres ?
Les piqûres, oui, j'en ai un peu peur, dans le sens que je suis allergique. J'ai dû être emmené une fois en ambulance à l'hôpital. Et puis on m'a dit qu'il fallait que je vende mes ruches ou bien que j'aille toutes les 6 semaines chez le médecin me faire faire une piqûre pour ne pas revivre cet incident. Alors j'ai choisi d'aller toutes les 6 semaines chez le médecin, ce qui est très pratique. Et puis j'ai plus peur des piqûres maintenant parce que en fait je risque plus grand chose.
Est-ce que les abeilles peuvent provoquer des maladies ?
Non, elles peuvent provoquer des maladies dans le sens que si tu es allergique, eh bien, tu risques d'avoir ce que j'ai eu, c'est un choc allergique, c'est quelque chose de grave, c'est le corps qui se défend en fait très fort et puis tu peux en mourir, hein, tu peux étouffer, être couvert de boutons, enfin, c'est une réaction allergique très forte. Très forte, on appelle ça un choc anaphylactique. Donc si tu es allergique, ça peut être grave. Mais en soi, il n'y a aucune maladie qui est transmise par les abeilles. Bien au contraire, hein, elles produisent du miel qui est aussi, en dehors d'être très bon, c'est un antibiotique. On peut le mettre sur des blessures, par exemple. On peut faire un tas de choses. Et même la piqûre d'abeille en soi, pour les gens qui ne sont pas allergiques, on dit que c'est bon pour les rhumatismes. Donc, des maladies, par contre, il n'y en a pas. Mais elles peuvent en avoir, et c'est notre grande crainte, c'est qu'elles sont... Elles risquent, par exemple, d'être infectées par un petit parasite qui s'appelle le varroa. Et c'est tous les apiculteurs se battent en fait contre ce parasite qui risque de décimer les ruches. Il y a eu beaucoup de pertes ces dernières années. Et c'est pour ça qu'il faut faire des traitements 2 ou 3 fois par année. C'est pas des produits chimiques, mais c'est par exemple de l'acide qui vient de la rhubarbe ou bien d'autres plantes, en fait, qu'on vaporise, qu'on met dans la ruche pour éliminer ces varroa.
Quelles sont les différences entre les abeilles et les guêpes ?
Alors, ce n'est pas du tout la même famille. C'est des hyménoptères, les deux, donc si on les classe dans les grandes classifications d'animaux. Par contre, les abeilles, les guêpes ne font pas du tout de miel. Les guêpes, leur rôle dans la nature, c'est d'être un peu les éboueurs, c'est-à-dire c'est la voirie, ils ramassent un peu tous les cadavres. Ils mangent de tout, ouais. Les guêpes mangent vraiment de tout. Les restes de viande, les insectes morts, un tas de choses comme ça. Et puis, le venin non plus n'est pas le même. C'est-à-dire que si tu es allergique aux abeilles, il y a une chance sur des millions et des millions que tu sois allergique aux guêpes, et inversement aussi. Donc les frelons, les guêpes, c'est une famille d'hyménoptères, et les abeilles sauvages, ce qu'on appelle les bourdons, c'est une autre famille, qui ont chacun leur venin, leurs caractéristiques propres, mais les guêpes ne nous font pas de miel, du tout.
Récoltez-vous du miel ?
Oui, on en récolte, ben forcément, parce que si on a... Bon, on n'en récolte pas énormément, on n'a que 3 ruches, mais les très bonnes années, on a été jusqu'à entre 95 et 100 kilos, et les mauvaises années, bon, on arrive à 30 et 40 kilos de miel.
Comment récolte-t-on le miel ?
Alors le miel, quand ça vient le moment, quand elle commence à aller butiner... On met ce qu'on appelle une hausse, c'est comme une deuxième maison qu'on met sur la ruche avec des rayons plus petits. Et c'est là-dessus qu'elles vont entreposer en fait le miel. Elles ne le mettent pas là où elles habitent, elles le mettent aussi un petit peu, mais surtout elles le mettent en haut. Et puis on met ce qu'on appelle une grille à reine pour éviter que la reine elle monte dans ces rayons puis qu'elle ponde des larves en fait là où il y aura le miel. Et puis il n'y a que les autres abeilles qui peuvent me passer parce que la reine est beaucoup plus grosse. Et puis alors les abeilles déposent leur miel, puis on va vérifier régulièrement. Et puis quand c'est prêt, quand le miel il a une bonne consistance, qu'il n'est pas trop humide, parce que sinon il risque de moisir, donc on doit attendre vraiment qu'il soit prêt. Et puis qu'elles ont ce qu'on appelle operculé les rayons, c'est-à-dire qu'elles ont mis une espèce de couche de cire sur les petites alvéoles. Alors là on peut les prendre. Et puis on les prend. On coupe, on enlève ce couvercle, si on veut, et puis on les met dans un centrifugeur. C'est une machine qui tourne et puis qui expulse le miel contre les parois, et puis en fait qui se remplit, c'est comme un gros bidon. Puis après on ouvre, on met un seau sous le... Il y a une espèce de robinet en bas, et puis on récolte le miel là-dedans. Et puis après on le met, c'est bien de le laisser dans un maturateur, c'est un autre récipient, pendant un jour ou deux, pour que les bulles d'air remontent à la surface et puis que le miel il ait une bonne consistance.
Merci beaucoup Hervé pour cette belle interview et aussi à vous, chers auditeurs.
C'était Maïs,
Emeric et Jonas.
Et David.
Merci à vous.
On se quitte avec 4 cusses au quartier Celares.
Voilà, on quitte nos amis les abeilles pour rejoindre
des animaux un peu plus gros et un peu plus câlins.
On écoute.
Tsunami. Bonjour, bienvenue sur Radio Box. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un petit reportage sur le dressage de chiens. Et dis-moi, Célia, depuis combien de temps existe le dressage de chiens ?
Le dressage de chiens ? Je sais pas, 10-15 ans maximum ?
Oh non, beaucoup plus. Au Moyen-Âge, on les dressait déjà pour la chasse.
Hein ? Eh ben... Oui, mais tu fais ton intéressante. Mais est-ce que tu sais combien de sortes de dressage il existe ?
Il y a le dressage pour les aveugles et il y a aussi...
Ah, tu vois, tu sais pas. Moi, je vais te dire tout ce qu'il existe. Par exemple, pour les aveugles, on utilise des labradors et des golden. Ce sont des chiens très calmes. Pour la police ou les sauvetages, des bergers allemands. Ce sont des très gros chiens, très forts. Pour les traîneaux, des huskies, des malamutes ou des samoyèdes. Pour les moutons, des border collies. Mais il y en a encore beaucoup. Bon, assez parlé. Avant de retrouver Roselyne pour plus d'informations, on écoute Wait de Maroon 5.
Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you.
Bonjour Zine, vous êtes éducatrice canine et depuis quand exercez-vous ce métier ?
Alors, j'ai fait une formation il y a 7 ans et depuis là, je donne des cours régulièrement.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire du dressage ?
Alors, au tout départ, j'avais peur des chiens. Donc, je changeais de trottoir quand je voyais des chiens, où j'avais peur, j'avais envie de pleurer. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie, j'avais plus envie d'avoir peur. Et mon mari avait déjà eu des chiens à la maison. Et puis du coup, je lui demandais si pour lui, ce serait intéressant de reprendre un chien et de m'aider à vaincre mes peurs. Et puis ensuite, j'ai eu vraiment très envie de mieux comprendre le chien. Comprendre comment il fonctionne.
C'est de quelle race ce chien ?
Alors mon chien est un berger de Shetland.
Faites-vous des concours ou d'autres types de dressage avec votre chien ?
Alors, en fait, dans mon jargon professionnel, on ne parle pas de dressage, on parle d'éducation canine. Effectivement, j'ai eu deux chiens. Donc, avant Enzo, j'avais Jack. Et j'ai fait pas mal de choses avec les deux. Donc, avec Jack, j'ai participé, en fait, à la prévention des accidents par morsure du canton de Fribourg. Ça veut dire qu'il y avait une formation à faire. Et ensuite, on allait dans les écoles pour sensibiliser les enfants à avoir les bons comportements avec le chien. Et puis avec Jack, j'ai aussi fait du travail de flair, beaucoup de pistes, où le chien il doit en fait suivre une odeur, l'odeur humaine, et puis trouver des objets sur la piste. Ça s'appelle en fait de l'accompagnement. Et dans cette discipline d'accompagnement, c'est une discipline sportive, il y a aussi un travail d'obéissance, où le chien doit marcher au pied, il doit rapporter des objets, des choses comme ça. Et avec Enzo, en fait, je me suis préparée à faire des concours d'agility, et pour l'instant, on n'est pas prêt. On a encore 2-3 choses à mettre en place pour que ça se passe bien.
Et en quoi consiste l'agility ?
L'agility, c'est une discipline sportive où le chien, en fait, va faire un parcours où il y a des tunnels, des slaloms, des sauts, différents obstacles. Et le chien doit les faire sans avoir peur, le plus rapidement possible, dans une suite numérotée, en fait, qu'on doit suivre.
Faites-vous que ça dans la vie ou avez-vous d'autres passions ?
Comme activité professionnelle, je suis éducatrice sociale. Donc ça veut dire que j'ai travaillé jusqu'à présent avec des enfants en bas âge, en crèche, J'ai également travaillé avec des personnes qui ont un handicap mental adulte et j'ai travaillé dans une structure d'accueil qui accueille les femmes victimes de violences. Donc je suis éducatrice sociale et sinon, à part les chiens, ben, un petit peu comme tout le monde, hein, j'aime lire, aller au cinéma, me balader en forêt.
Est-ce obligatoire de suivre des cours ?
Alors à l'heure actuelle, les lois, elles ont changé. Donc à savoir que c'est comme toute loi, il y a des lois qui sont cantonales et fédérales. Donc à l'heure actuelle, il n'existe plus les cours obligatoires au niveau fédéral. Après, chaque canton décide de qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place pour les détenteurs de chiens dans leur canton. Et pour l'instant, dans le canton de Fribourg, on n'a pas reçu de nouvelles directives. Donc pour l'instant, il n'y a plus de cours obligatoires.
Y a-t-il des races de chiens plus adaptées pour le dressage ?
Alors en fait, je ne parlerai pas forcément de races plus adaptées, mais plutôt de tempérament de chien. Donc chaque chien est différent, a des besoins d'occupation et a des envies particulières pour obéir. Donc on sait par exemple que les chiens de berger sont facilement plus volontaires, ils ont envie d'activité, ils ont envie de faire plaisir, ils ont envie de faire. Mais après, chaque chien est différent, il suffit de trouver la bonne motivation, une bonne récompense et tous les chiens sont capables d'apprendre, quelle que soit leur race, quel que soit leur âge.
Faites-vous d'autres types de dressage ?
Moi j'aime beaucoup en fait la classe chiot. Parce que je trouve toujours chouette de voir arriver ben, ces teams, donc ces nouveaux propriétaires avec leurs nouveaux petits chiens, de voir comment ça se passe entre eux, le lien, comment ils apprennent à se connaître, et puis justement pouvoir poser les bases de l'éducation du chiot. Je donne aussi en fait des cours de chien de famille. Donc l'idée, c'est d'avoir une activité chaque semaine avec son chien, un peu comme quelqu'un qui va au fitness. Et puis, le fait que ce soit ludique et constructif, donc le chien, il a du plaisir à venir, ça lui fait une bonne activité, et puis tout le monde est content.
Merci à Rosine d'avoir répondu à toutes nos questions, et tout de suite, pardon de Ritza.
Des failles, j'ai commis des fautes, je les ai laissées faire. On m'a fait du mal, j'ai prêché le faux, je suis resté vrai. J'ai remonté la pente, j'ai serré le poing sans le faire savoir.
Tu sais quoi, Bruna ? Moi j'ai été faire les cours là-bas avec mes deux chiens et c'est vraiment trop bien.
Ah ouais ? Bah explique.
Mais en fait, tu vois, on fait pas que du dressage, on fait aussi des jeux, on lâche les chiens à la fin et puis tu vois, après les chiens comme ça, ils peuvent. Cohabiter entre eux, apprendre à se maîtriser, on développe leur sens et on ne fait pas que du dressage assis, couché.
Et voilà, c'est la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était les élèves de 7-8H de Farvani, Emma, Célia, Bruna et Lara. Tout de suite, tout va bien de Orelsan avant de retrouver l'interview d'un paléontologue. Ciao !
C'est le monsieur d'or de...
Tsunami.
Radio Box, la radio qui fait du flow.
Hey, salut, tu sais quoi ?
Quoi ?
Pendant les vacances, je suis allée au Maroc et j'ai suivi ce qu'on appelle la route des dinosaures.
Tu connais le nom des dinosaures ?
T-Rex, Triceratops, Stegosaure, Spinosaure ?
Hein ? Tu sais, le plus facile. Deux, c'est Spinosaurus. Heureusement que Michel Montbaron, celui qui est en train de créer un musée de dinosaures au Maroc, vient pour parler de son métier, la paléontologie. Mais d'abord, on va écouter une petite musique. I'm waking up.
Bonjour Michel Montbaron.
Bonjour.
Vous avez 75 ans, vous êtes géologue et vous avez travaillé longtemps en géographie à l'université de Fribourg. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi paléontologue ?
Bien sûr, un géologue, c'est quelqu'un qui va taper sur les cailloux pour voir qu'est-ce que c'est comme cailloux, mais qui cherche dans ces cailloux des fossiles. Et la recherche de fossiles relève de la paléontologie. C'est une des disciplines de la géologie.
Où habitez-vous ?
En ville de Fribourg.
Est-ce que vous êtes suisse à part entière ?
Bien sûr, je viens du Jura, qu'on dit bernois. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes classes, j'ai fait aussi l'école normale à Porrentruy et je suis devenu instituteur comme votre instituteur ici présent. Et j'ai enseigné pendant quelques années. Ensuite, j'ai repris des études à l'université de Neuchâtel pour devenir géologue.
Malgré vos nombreux voyages pour exercer votre métier, avez-vous quand même du temps pour votre famille ?
Mais bien entendu. Les voyages que j'ai faits, c'est souvent, et le plus souvent en famille. D'abord, lorsque j'étais jeune avec mon épouse, on s'est installé au Maroc. On avait un petit enfant de 4 ans qu'on a pris avec nous. On s'est installé là-bas. On a vécu 6 ans au Maroc. Et ensuite, on est rentré en Suisse. Mais depuis qu'on est de retour en Suisse, on voyage beaucoup. On va souvent à l'étranger, en famille, bien sûr. Et maintenant que je suis un peu plus âgé, les enfants, les petits-enfants étant ailleurs, je voyage souvent avec mon épouse.
Pourquoi avez-vous fait ce métier ?
Parce que j'aime la nature, parce que j'habitais un pays, le Jura, où les roches sont bien apparentes, où on voit les roches, où on peut les toucher, où on peut voir que dedans il y a des fossiles, ça m'intéressait. Quand j'étais instituteur, j'allais avec mes enfants, mes élèves, j'allais sur la montagne en face du village où j'enseignais pour aller dans les carrières, chercher des fossiles, pour voir le paysage, voir les formes du terrain. Et c'est ça aussi qui m'avait conduit par la suite à étudier la géologie. J'aime la nature animée, certes, les plantes, les animaux, mais surtout la nature inanimée, les roches, les formes du terrain, etc.
Comment devient-on paléontologue ?
Eh bien, d'abord, on fait des études de géologie. La géologie est une vaste discipline où on apprend à connaître comment la Terre s'est formée, comment elle est faite, comment sa surface est faite. Quelles sont les roches qui sont à la surface de la Terre, aussi les roches qui sont en profondeur de la Terre. Ces roches, comment se sont-elles formées? On appelle la pétrographie, la sédimentologie, et puis aussi après la tectonique qu'on étudie, à savoir ce qui se passe lorsque les roches sont soumises à des compressions, à des mouvements du terrain, à des tremblements de terre, etc. Ce qui crée des montagnes et ce qui met en relief les montagnes et les roches qu'on peut aller ensuite voir. Et bien entendu, comme je vous ai déjà dit, à l'intérieur des roches, qu'on appelle sédimentaires, c'est-à-dire qui se sont déposés soit dans la mer, soit dans des lacs, soit sur des plaines, dans des plaines, il y a des fossiles, et ces fossiles sont l'outil que les paléontologues emploient pour donner un âge aux roches. Et c'est pour ça que j'ai fait de la paléontologie, parce que dans mon métier de géologue, j'avais besoin de donner un âge aux roches, et c'est par le moyen des fossiles que j'y arrivais.
Et maintenant, Zelfanio de Griffinia.
There was a place many years ago where the children would come for a meal and a show of the horror in the corner. The chorus had its errors. There's Freddy and Foxy and Bonnie and Chica, the band's back together and playing the deep cuts. And when the curtain comes to close.
En 1979, vous avez déterré entièrement votre dinosaure, l'Atlasaurus Imelakei. Combien de temps avez-vous fait pour le déterrer ?
Ah, il a d'abord fallu le trouver. Ça a pris déjà du temps. Puis lorsqu'on a vu qu'à un endroit précis, il y avait beaucoup d'ossements à la surface, eh bien, on a commencé de creuser. Et ça nous a pris plus d'une année pour déterrer. Il est vrai, entre l'automne où nous avons commencé et le printemps, à la fin du printemps où nous avons terminé, il y a eu un long hiver dans les hautes montagnes de l'Atlas où il y avait de la neige et où on ne pouvait pas travailler. Donc on a pris à peu près une année pour le déterrer.
Si on ne compte pas l'hiver.
Si on ne compte pas l'hiver, disons 6 mois, 7 mois de travail sur le terrain.
Quel est le premier os que vous avez trouvé d'Atlasaurus himalacai?
C'est un numérus, c'est-à-dire l'os qui est ici dans la patte de devant du dinosaure, entre l'épaule et le coude, si vous voulez. L'humérus sortait de la terre et j'ai pu appuyer ma main dessus puis dire « Ah, ici, on va creuser parce qu'il y a un gros os, il y a beaucoup de petits morceaux d'os autour, on va creuser, peut-être qu'on trouvera quelque chose d'intéressant. »
Avez-vous toujours été au Maroc pour la paléontologie ?
Évidemment, j'étais au Maroc pour autre chose que chercher des dinosaures. J'étais géologue au Service géologique national pour dresser des cartes géologiques. Et c'est en dressant ces cartes que j'ai trouvé notamment ce dinosaure, mais aussi des ammonites, aussi d'autres fossiles, des matières utiles, du fer, du zinc, du plomb, etc., que je découvrais dans les montagnes parce que c'était une région que l'on ne connaissait pas encore bien et où j'étais chargé de faire le recensement de toutes les ressources qu'il y avait. Donc la paléontologie est venue par la force des choses dans mon travail. Je ne suis pas un paléontologue pur sucre, si on peut dire, mais j'ai été forcé de faire de la paléontologie puisque j'ai fait des découvertes intéressantes.
Quand avez-vous été pour la première fois au Maroc ?
Oh là là, vous n'étiez pas né, je ne sais même pas si vos parents étaient nés. C'est en 1971, ça fait donc 45 ans et plus, hein, 46. C'était à la demande de mon professeur de géologie qui m'a emmené avec lui pour faire une mission de travail sur le terrain. Et ça m'a plu et... 4 ans après, je suis allé au Maroc m'installer avec ma famille, donc mon fils de 4 ans. Là-bas, nous avons vécu 6 années et c'est pendant ces 6 années, en faisant des recherches sur le terrain dans la montagne, que j'ai trouvé ce dinosaure.
Les noms de dinosaures sont en grec ancien ou un mélange de latin et de grec. Pourquoi ?
Oh là là ! Que répondre à ça ? Il y a une tradition dans les sciences naturelles de donner aux plantes, aux animaux, aux fossiles des noms latins ou grecs pour suggérer leur nature. Par exemple, Atlasaurus himalacai, le dinosaure que j'ai découvert, ça veut dire Zaurus, le lézard, le grand lézard, le lézard de l'Atlas. Himalacai en arabe veut dire grand, le grand lézard de l'Atlas, parce que les dinosaures sont en somme des gros lézards.
Vous avez publié un guide touristique pour voyager au Maroc. Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ?
Parfaitement, à tout le monde. Il y a même des informations familiales pour dire aux familles qui veulent aller avec leurs enfants sur ce que j'appelle la route des dinosaures, c'est-à-dire la route à travers le massif de l'Atlas, où l'on rencontre, où l'on passe à tous les endroits où on a trouvé des dinosaures, eh bien, il y a pour les familles des suggestions de faire des découvertes, d'aller gratter pour chercher des fossiles, d'aller se baigner dans un lac de barrage, etc. Tout est organisé sur cette route des dinosaures pour que la famille entière, les parents et les enfants, aient de l'intérêt à y aller.
On peut le trouver facilement dans une librairie, par exemple.
On peut le trouver dans une librairie, à la Bulle à Fribourg, par exemple. Ils l'ont.
Ok. Nous arrivons au terme de cette interview.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à bientôt, Michel Montbaron.
À bientôt. Ben, je vous remercie de m'avoir invité.
Et on se quitte sur une petite musique.
Voilà, maintenant nous allons prendre un peu de hauteur avec nos tours Eiffel à nous.
Radio Bug, la radio qui fait du flow.
Bonjour et bienvenue sur l'émission A.
Quoi ? Mais pourquoi mission A ?
Ben en fait c'est un peu logique, nos prénoms ils commencent tous par A. Arietta, Anastasia, Axel.
C'est nul, faut avoir un truc original.
Mais pas original, un truc drôle, c'est mieux.
T'appelles ça drôle ? Émission A, c'est pas très original.
Arrêtez de vous bagarrer les filles, on en a marre. On dit bonjour et bienvenue sur émission cool.
Bonjour et bienvenue sur émission Giblou.
Oh non, émission Giblou, ce n'est pas original du tout. Bon, assez parlé, maintenant écoutons un morceau de la musique Ed Sheeran Perfect.
T'as vu la tour du Giblou ?
Oui, je l'ai vue. Elle est très grande, mais en fait, tu sais combien de mètres elle fait ?
Ouais, elle fait 118 mètres.
C'est énorme ! Ma maman n'a même pas osé monter, tu te rends compte ?
Oui, c'est vrai, c'est très haut. Et vous savez, on voit même le Molaison.
Ouais, je trouve aussi, c'est une hyper belle vue.
Comme vous avez pu le voir, on va parler de la tour du Giblou.
Mais en fait, savez-vous en combien de temps on a fait pour la construire ?
Moi, je sais, environ un an.
C'est assez longtemps.
Mais elle sert à quoi ?
Elle sert à la télécommunication.
C'est quoi la télécommunication ?
C'est pour transmettre les programmes TV et la radio, tu vois ?
Ah, j'ai enfin compris.
Mais pourquoi ça a été placé ici et pourquoi pas dans un autre endroit ?
Ben parce que elle peut transmettre loin et donc c'est un point bien élevé et bien placé. Mais ça a dû coûter cher tout ça.
Oui, il me semble 18 millions de francs.
D'accord, mais maintenant nous allons écouter la musique de Dua Lipa, It Giaf.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why.
Nous sommes allés voir Roland Piquant, qui connaît bien l'ancienne tour. Donc, on est allé lui poser quelques questions.
Bonjour, nous sommes en compagnie de Roland Piquant. Nous allons lui poser quelques questions sur l'ancienne tour.
Avant, il y avait quoi à la place de la tour du Giblou ?
Alors, avant la tour du Giblou, il y avait une petite antenne qui faisait environ 10 mètres de haut. C'était un observatoire. C'était pendant la guerre, la première guerre, si on veut, de 14-18. C'est un observatoire ici, et puis elle a été détruite. Et puis des jeunes du village, entre autres la charpente de Grain, ont reconstruit cette tour dans les années 1920-25, ça fait erreur.
Quand elles ont été construites, ancienne tour et nouvelle ?
Alors la nouvelle tour, elle a été construite en 1925. Elle a été inaugurée le 25 août 1925, oui.
Pourquoi vous connaissez aussi bien ces tours, rapport avec le métier ?
Oui, je la connais bien parce que j'étais petit et j'allais aussi faire la fête là-haut parce que cette tour, elle était construite un peu pour faire la fête. Si on veut, les gens à l'époque n'avaient pas de télévision, ils allaient souvent le dimanche. En haut à la tour, faire la fête, il y avait la musique. Et puis nous, on montait avec les parents. C'est pour ça que je la connais un peu plus.
Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez vécu ?
Ce que j'ai vécu dans la tour, j'avais 5 ans. Puis je suis monté une fois les escaliers jusqu'au-dessus, à crepetant, comme ça, je n'osais pas me lever, et j'ai dû redescendre tout à l'arculette. Ici, c'est pour ça que c'était agréable, si on veut, mais peureux, quoi.
C'est la fin de notre émission, j'espère que ça vous aura plu, merci de nous avoir écoutés.
Et surtout, restez avec nous, car il y aura l'interview de Monsieur Bréchet.
Après ce reportage aérien,
on quitte un petit peu le Giblou pour descendre en pleine ville avec le papa de notre camarade Théo pour notre dernière interview. C'est parti!
Bonjour et bienvenue sur Radio Giblou. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Benoît Bréchet pour parler des parcs-mètres de la ville de Fribourg. Oui, ceux qui nous demandent des sous pour nous parquer.
Ah oui, l'autre fois, mon papa n'a pas payé le parking.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Quand il est revenu, il avait un billet sur la vitre de la voiture. Et ensuite, il a dit plein de gros mots, c'était rigolo.
Bon bref, on est là pour faire une interview ou pour papoter?
Nous allons commencer l'interview juste après la musique. Voici Joachim Smoker et Coldplay.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift.
Bonjour Benoît, est-ce que vous allez bien?
Bonjour à vous, oui, ça va super aujourd'hui, merci.
Quel âge avez-vous?
J'ai 37 ans, j'ai eu 37 ans au mois de janvier.
Avez-vous des enfants?
Oui, 2.
Comment s'appellent-ils?
Théo, qui a 12 ans, et Lucas, qui a bientôt 10 ans.
Ok. Avez-vous des enfants? Des passions, désolé.
Oui, j'ai une passion pour le hockey. Je suis joueur et entraîneur junior au hockey sur glace.
Où avez-vous fait vos débuts?
Au HC La Chaux-de-Fonds. J'ai commencé l'école d'hockey au HC La Chaux-de-Fonds.
Depuis quand travaillez-vous sur les parcs-mètres?
Ça fera 2 ans au mois d'août cette année.
Que faites-vous exactement?
Alors, c'est beaucoup de choses. On vide et on collecte l'argent toutes les semaines. Nous avons 208 ans de parcs-mètres en ville de Fribourg. Ensuite, on les une ou voire deux fois par année, on fait un entretien général dessus. Donc réparer ce qui est cassé, redonner un coup de peinture. Et ensuite, lors de panne, on a des alarmes qui viennent sur nos téléphones et on va les remettre en service pour que tout fonctionne correctement dans la ville.
Quelle est la différence entre un parcmètre et un ordinateur?
Alors moi, pour moi, il n'y a pas de grande différence, mais on peut les séparer. Un parcmètre, on peut dire que c'est un appareil sans ticket. On va payer pour un numéro de place. Et un horodateur, c'est un appareil qui va nous donner un ticket qu'on va déposer sur le pare-brise.
Avez-vous des fois de nouveaux parcs-mètres?
Oui. En 2017, nous avons installé 30 nouveaux appareils en ville de Fribourg.
Je sais que dans certains pays, on paye les parcs-mètres avec les Natel. Est-ce qu'il y aura ça à Fribourg?
Oui. Nous allons mettre ça en service depuis le mois de mai cette année. Les journaux ont déjà commencé à en parler et la campagne de pub, si j'ose dire comme ça, va démarrer fin mars, début avril.
Est-ce un travail difficile?
Cela dépend des pannes et puis de la réaction des gens. Lorsqu'ils arrivent devant le parcmètre et puis que l'appareil est en panne et qu'ils ne peuvent pas payer, ils ont tellement peur de recevoir une amende parce qu'ils n'ont pas payé, donc je veux pas dire qu'on nous crie dessus, mais on sent que les gens ne sont pas contents. C'est le seul point négatif que j'ai dans ce travail.
Nous allons faire passer Black M et on se retrouve juste après.
Sur ma route,
Aviez-vous un autre travail avant ?
Oui, j'étais au service technique à l'usine Caillé à Bro. Je réparais les machines qui tombaient en panne.
Aviez-vous un autre travail encore avant ?
Oui, je travaillais pour l'usine Tetra Pak à Romont. Je réparais aussi les machines, j'étais au service technique, mais malheureusement l'usine a fermé pour aller faire son activité à l'étranger.
Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit ?
Alors, quand j'avais à peu près votre âge, donc 10-12 ans, je voulais être architecte. Mais comme vous le voyez, j'ai pas du tout fait ça.
Merci d'être venu et au revoir, Benoît.
Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission radio. Notre groupe est formé de
Jérôme,
Théo
et Tristan. Nous nous quittons avec Stromae.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa!
Et voilà, c'est terminé.
Un grand merci de nous avoir suivis.
Et pour vos prochaines vacances, n'hésitez pas.
Le Giblou est le meilleur endroit. Bye bye, bye.